Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver au micro ce soir. Yael Bornstein, en technique avec moi, Michael Holschwang. Vous êtes sur Cannes en français et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Aujourd'hui, 17 avril 2024, c'est le 194e jour de la guerre contre le Hamas. Je vous rappelle que ce flash qui ne dure que 5 minutes est disponible à la radio uniquement sur le 101.3 FM. On vous invite à nous retrouver à partir de 21h20 sur le 101.3 FM ainsi que sur la page de Cannes en français avec votre rendez-vous Facebook Live pour le journal complet. Ce soir, notre invité sera Olivier Rafovitch, qui nous résumera une semaine chargée en événements sécuritaires. Il évoquera l'attaque iranienne, la riposte que prévoit Israël, mais aussi les enjeux au front du nord et du sud du pays. Mais avant cela, voici les nouvelles de ces dernières 24 heures. Dans la localité arabe d'Arab al-Aramcheh, près de la frontière libanaise, 18 personnes ont été blessées par un tir direct d'un engin piégé qui a heurté un centre communautaire du village. 14 de ces blessés sont des soldats de Tsahal. L'un d'entre eux est dans un état critique, deux dans un état grave et le reste dans un état modéré. La totalité des blessés a été prise en charge au centre médical de Galilée à Naharia. Le Hezbollah a revendiqué fièrement la responsabilité de ces tirs et affirmant qu'elle avait été menée à l'aide de missiles antichars et de drones d'attaque. Selon le Hezbollah, l'attaque a été menée en riposte à l'élimination de certains de ses membres. Dans la documentation de l'attaque, on peut voir qu'un drone kamikaze explose sur le bâtiment. Le président d'Israël Beitenu, Avigdor Lieberman, a critiqué aujourd'hui sur Rechet Bet la conduite des combats dans le Nord. Il avait préalablement écrit sur son compte du réseau X que c'est le 94e jour que le cabinet de conception a perdu et abandonné les habitants du Nord qui sont devenus, je cite, des canards à la portée de tir du Hezbollah. Nous devons immédiatement jeter le Hezbollah au-delà du fleuve du Litani, a ajouté Lieberman. Suite à des informations faisant état d'une attaque israélienne au plus profond du Liban, l'agence nationale de presse libanaise a rapporté qu'un drone israélien avait attaqué avec 3 missiles un bâtiment à l'intérieur d'un quartier résidentiel de la ville d'Iyat, adjacente à celle de Baalbak, selon le journal libanais Al-Akhbar, affilié, je vous le rappelle, au Hezbollah. Une personne aurait été blessée. Au même moment, la chaîne de télévision saoudienne Al-Ad a fait état de 2 civils blessés. Dans le cadre de l'accélération de la préparation de Tsahal à la défense et à l'attaque sur le front du Nord, un exercice à grande échelle a été réalisé en Galilée, dirigé par la 91e division, en coopération avec l'armée de l'air, la police israélienne et les forces de sauvetage, dans un terrain complexe, dans des conditions météorologiques difficiles et de nombreux incidents faisant des victimes. Toutes les forces du secteur, y compris les policiers anti-émeutes et les membres des unités en attente dans les différentes localités, les forces de police et de secours, les forces blindées, le génie et les brigades de la division se sont efforcées de maintenir une pleine préparation afin d'assurer une défense et une attaque forte lors de la prochaine guerre qui risque d'affronter Israël et le Liban. Depuis le 7 octobre, plus de 7200 blessés ont été pris en charge par le service de réhabilitation du ministère de la Défense. 95% d'entre eux sont des hommes réservistes de moins de 30 ans. Environ un tiers des blessés a développé des conditions mentales et psychiques en plus de leurs blessures corporelles. L'Iran a de nouveau mis en garde Israël contre toute éventuelle riposte à l'attaque de samedi soir. Le président iranien Ebrahim Raisi affirme que la réponse iranienne serait décuplée. L'action que nous avons entreprise a été limitée, a dit Raisi. Nous avons décidé de n'attaquer que les cibles utilisées par le régime sioniste pour nuire aux intérêts iraniens. Si nous avions répondu à l'attaque israélienne contre notre consulat à Damas par une attaque de grande envergure, eh bien, il ne resterait plus rien du pays des sionistes, s'est vanté Raisi dans un discours qu'il a prononcé lors d'un défilé militaire à Téhéran. Toujours à ce sujet, Israël défend son droit de répondre à l'attaque iranienne. Le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, a transmis ce message lors de sa rencontre à Jérusalem avec ses collègues de Grande-Bretagne et d'Allemagne. Il a appelé à définir les gardiens de la révolution comme une organisation terroriste et à imposer des sanctions contre le programme de missiles iranien. L'attaque sauvage contre l'État d'Israël a prouvé que Téhéran met en danger la stabilité régionale et a créé une opportunité pour la freiner. C'est ce qu'a déclaré Katz. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a fait preuve de compréhension à l'égard de la position israélienne, déclarant que Israël était un État souverain aussi dans ses décisions. Avec cela, il a espéré qu'Israël agira avec sagesse et que sa réponse ne provoquera pas une escalade supplémentaire. Merci de nous avoir suivis sur Canne en français. On vous retrouve comme prévu à 21h20 pour le journal en entier et votre rendez-vous Facebook Live. Au micro, c'était Yael Bornstein, en technique Michael Olschwang. Shalom depuis Jérusalem.
Buenas noches, soy Jessica Newa. Este es el flash informativo en español de las 9 de la noche. El ejército israelí dijo que ha concluido una operación puntual contra Hamás y la Yihad Islámica Palestina en Beit Hanun, en el norte de la Franja de Gaza, destinada a detener a los miembros de grupos terroristas. En una declaración, las fuerzas de defensa dijeron que tropas encabezadas por la Brigada Norte de la División de Gaza asaltaron 12 edificios escolares en Beit Hanun, tras recibir información de inteligencia de que agentes de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina estaban reunidos allí y estaban utilizando a civiles que se refugiaban allí como escudo humano. Las fuerzas de defensa dicen que por primera vez la ayuda humanitaria que llegó a través del puerto de Ashdod está ingresando en la Franja de Gaza. A principios de este mes el gobierno aprobó la apertura del puerto de Ashdod para entregar ayuda humanitaria en un intento por aumentar la cantidad de alimentos y suministros médicos para los civiles palestinos. El camión se sometió a una minuciosa inspección en el puerto y luego entró a la franja por el cruce de Kerem Shalom. Los medios de comunicación libaneses informaron sobre un ataque aéreo israelí en el distrito de Baalbek, en el noroeste del Líbano. Las imágenes publicadas en las redes sociales muestran humo saliendo de un sitio objetivo. Baalbek es una zona identificada en el pasado como un bastión de Hezbollah y está a unos 100 kilómetros de la frontera israelí. El ataque en lo profundo del Líbano se produce tras un ataque con drones llevado a cabo hoy por Hezbollah que hirió a 14 soldados y 4 civiles. El jefe del partido Shas y observador del gabinete de guerra Ari Ederi dijo que Israel no debería contraatacar a Irán tras el ataque con misiles y drones del fin de semana, que según él fue repelido gracias a milagros sin precedentes. Deri dijo que Israel ya tiene suficiente con la guerra en Gaza, la crisis de los rehenes y también las hostilidades en el norte. Dijo, así que lo correcto en este momento es centrarse en eso y no abrir más frentes, no buscar maneras de agravar la situación. El gobierno aprobó el nombramiento del funcionario de los asentamientos, Rafael Engel, como director general del Ministerio de Seguridad Nacional. Como subjefe del Consejo Regional de Binyamin, Engel, que también es miembro del Comité Central del Likud, manejó cuestiones de seguridad, incluido el establecimiento y mantenimiento de elementos de seguridad en los asentamientos y también el mantenimiento de relaciones con varios órganos de seguridad. El anterior director general del ministerio, Shlomo Ben Eliyahu, dimitió en septiembre pasado alegando motivos personales, aunque informes de los medios de comunicación indicaron que pudo haber abandonado el cargo debido a enfrentamientos con el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Un proyecto de ley presentado por los republicanos de la Cámara de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos otorgaría a Israel unos 26.000 millones de dólares en ayuda militar, unos 4.000 millones de dólares de los fondos se destinarían a reponer misiles interceptores para los sistemas de defensa aérea de corto y mediano alcance, ya sea la cúpula de hierro y la onda de David. Otros 4.400 millones de dólares se destinarían a restablecer los suministros agotados de otras armas y unos 3.500 millones de dólares estarían destinados a la adquisición de sistemas de armas avanzados, artículos y servicios de defensa. Esto según un resumen publicado por los republicanos de la Cámara de Representantes. Los diplomáticos dicen que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene previsto votar el viernes sobre una solicitud palestina de membresía plena en la ONU, una medida que se espera que Estados Unidos, aliado de Israel, bloquee porque reconocería efectivamente un Estado palestino. Una resolución del Consejo necesita al menos 9 votos a favor y ningún veto de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia o China para ser aprobada. Los diplomáticos dicen que la medida podría contar con el apoyo de hasta 13 miembros del Consejo, lo que obligaría a Estados Unidos a utilizar su poder de veto. Hasta aquí la información. Soy Jessica Newa. Nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde, como todos los días. Que tengan una noche tranquila. Shalom desde Jerusalén.
Cartuleno Vanilla Giocan Reca, Ramisimishon Vanilla Halian Baby, Mikrofon Dan Miriam Shikasulemon Gesamovi Tomis, Asot Homotstametot Matedre, Matatsevuli Israelis Mokalakevis, Asot Statsameti Adamianitsotskali Tumkudari, Isot Vashia Omiki Grzeldeba, Kansakotrevich Kstilo Chigak Tiurda, Hizbalis Mavdolebi, Iranis President Imukreba, ჩვენები დუმან. Ტრანსპორტის მოძრაობა ტელავებში გადაკეტილია. ტელავებში ღამის მარათონი 18 საათსა და 15 წუთსა დაიწყო. დღეს ამერიკის რიგით მეორე კანდიდატი ბატონი ტრამპი ისრაელის წინააღმდეგ ამ ეტაპზე ბაიდენი ტრამპს 6% უსწრებს. ევროპა და ევროგაერთიანება, მათი საგარეო საქმეთა მინისტრები ოფიციალურად ეწინააღმდეგებიან ირანზე სამხედრო ოპერაციას. ისინი ისრაელის მარათონში არიან, თუმცა ძალიან ცდებიან. ირანი მარტო ჩვენი მტერი არ არის, მსოფლიო საშიშროებას წარმოადგენს. მისი მძლავრი შეიარაღება, რომელსაც რუსეთი მხარს უჭერს და ალბათ ხვალ ყველას ბუმერანგივით თავზე დაატყდება ეს მძიმე საშიშროება. დასავლეთით, კალიში თავდასხმის შედეგად ერთი უმძიმესი, სამი მძიმე და საერთოდ 18 ჯარისკაცი დაიპყრეს. და საფრენი აპარატის პირდაპირი დატყვის შედეგად დასავლეთ გალილის დასახლებაში არაბ ალარმაშის კომუნალურ შენობაში. ერთ-ერთი უმძიმესი მდგომარეობაშია და უგონო, როგორც უკვე მოგახსენეთ, 6 მძიმეა. დანარჩენი 18-დან საშუალო სიმძლავრის ძალმა არტილერიით უპასუხა. გაშვების წყაროებმა შეუტია ჰიზბალის სამხედრო შენობას ლიბანში. გააქტიურდა გარეშე დაჯახებაც. დაშავებულები მათი ოთხი მათგანი მძიმე მდგომარეობაშია პირდაპირი დატყვის შედეგად. სამწუხაროა, რომ თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებმა ცალი სამედიცინო ჯგუფთან ერთად დაჭრილები გალილის სამედიცინო ცენტრში ნაარიაში გადაიყვანეს. რა ხდება ევაკუაციის მცდელობის ფარგლებში? საარტილერიო ცეცხლი, ლიბანის სასაზღვრო ცეცხლის წყაროები ამავდროულად, გრძელდება ცეცხლი ლიბანის ტერიტორიისკენ და გააქტიურდა რამდენიმე სარაკეტო გაფრთხილება. ხარლეტის ეროზიაში არსებობს მძიმე შეტაკებები, თუმცა ჯერჯერობით ცნობილი არ არის ბოლო ერთი საათის განმავლობაში რამდენი რაკეტის გაშვება დაფიქსირდა ლიბანის ტერიტორიიდან არაბულ არარმაშის ზონასთან. ძალი თავს დაესხა სროლის წყაროებს. ვინც ზუსტი ფეთქებადი წალკვეშა პროცესები გამოუშვა, არსებობს საშიშროება, იწერება ძალის სამხედრო ბატალიონების მიერ. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში არაბ არმაშის პირდაპირი დატყმის შედეგად მიღებული ზიანის დოკუმენტაცია უკვე აშკარაა. ჩვენ რადიო მსმენელებო, როგორც უკვე გაუწყეთ, ირანის საფრენი აპარატები, რომელიც ქვეყანაში შემოიჭრა შაბათ საღამო გამოს ძალიან დიდი შედეგი, ძალიან დიდი ზიანი არ მოუყენებია ისრაელის ქვეყნისათვის, მაგრამ ის რაც დღეს ხდება ხიზბალის მხრიდან, ყოველ მხრივ უდიდესი ზიანია. პარალელურად ჩვენი გატაცებულების ინფორმაცია არცერთი მხრიდან არ აქვს ისრაელს და ხდება ქვეყანაში, რატომ სდუს პრემიერ-მინისტრი, თუმცა მან დიდი ბრიტანეთისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებს უდიდესი მადლობა გადაუხადა იმ პროცესებისათვის, რომ არ შეუშალონ ხელი ისრაელს, თუ ისინი დარტყმას გადაწყვეტავენ. მთავრობა გაწევის შესახებ კანონპროექტის დაკავშირებით თვით პოზიციებს სხვაგან იძლევს, მას შემდეგ რაც ომბუდსმენმა განაცხადა მთავრობის პოზიცია, მას ჯერ არ წარუდგენია. პრემიერის მოთხოვნის ფონზე უმაღლეს სასამართლოში წარდგინება. იმედია, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ, მაგრამ ეს გამარჯვება საკმაოდ ძალიან გაიზარდა და გაიწელა. როგორც ჩანს, ისრაელის ბევრი მოქალაქე დუბაიში გაჭედილია, მე კი განსაკუთრებული სიხარულისა და უკეთესი მომავლის იმედით და მშვიდობებით, ღამე მშვიდობით, შალომ იერუშალაიმ.
ინჯე უშალაიმ, შალომ რადიო შემოგვიმოგვრი მუხტარამ და უშალაიმ ხოდერ საათი ნუშონზე. მოანბედი ხეთათონ 5 დეხიხა მალუმოთ ნეროსონინი. ევროსროზი ჩორშამე ნუი მოინისონ 5 დრო ხავსუ დაშტობუ ჩორომ სურაძროი ხვიიონ ჰაბდუმი აპრელი 2024. იმროს დიაქსინონ ბუდუ ჩორომ როზი ჯანგი შამშერ ჰოი თემური. ქუებეხტრი ისრაელ ხარაკათოების ორგანიზაციას ბროი ბეგრები გიხტეს გონრო ოზორ კარდან. აზიუ ტრამფ მოიხდა 7 ჰაფტი ოიანდა იდი ესახროფეჟოს მეგრიმ და ეჩან რეზერვი ჰაზრონ რეზერვი სტო ინდრო დარ სექტორ აზა ნიგზრონ ცეცაშილოთი ხამას მალუმ კარტკი ბე ოზოთ კარდენი 20 ბეგრები გრიფტერ სტუგიონ თაიორ ჰას ამო აზ ისრაელ დაბორატკი 6 ჰაფტა ჯანგ ბას კარდა შულან ისრაელ დენ ჰონოროს გიხუდრო ნაროსონდ მაგრამ ხორეჯე იტალია იმოს ბა სარბაზირი ისრაელ ხამსობად კარდა ტრაპ კარკი ბოია ჯანგ და სექტრე აზა ბას შულრა შარტ იმოს ხამ ფაგოი ტრიბოგი ოგოხდი დერ შმოლი მამლაკეთა მონ ჩანდინ ბო კორ ფარმოდა შუტ დურა კეთაო და ბეთე ლელ ავტოთ ზრუი მანუმოთი პარამედიკო შონზა ნაფარ ოდამ უმროს ზიარადორ გარგიზე ბაინიონო ხამჩუნ ასკარ ხოი ისრაელ ხამბუდან ბეზი გზაშტა ხოი ბეხეთრი ხოი ისრაელ ბე მოშინი იაკ ქოლონ ხოი ტშკილოთი ხიზბალა უჯუმრა სონდა ორონო უდკარ ბადი იაკ ჩანსად ბო აზ იაკ ქოლონ ხოი ტშკილოთი ხიზბალა და დიგარჯო მოგუთ კარდა შუ აგენი სამაბი იმროს ხამ ასურა აზლევან ბსი ისრაელ ბსორა კეთაო პარონ შუ ბჭავრკი გუთაბონდი თხმინან შუნზა ნაფარ ოდა იადორ გარდიდან ნორმიო ორო დერ კალიცი დერ ხურგონი მო ხამჩუნ დარბორი ერონ შუ ისოდას კი ისრაელ ჯავოვაშო ბეირონ დოდინას ასა ოხეი კი დარმოცი შაბოჩლუ გზაშ ერონ ბესი ისრაელ ჩანსად რაკეთა ჰოპარონ და ზარავასონ დიგუ პრეზიდენტი ერონ იბრუს ბარომადი ხუ დარბარომადი ხუ თაქრონ ხარდა გურსკი კი ეგო აგარ ისრაელ ბეირონ იბონ რაფტორ ზარ რაფტორი ზარავასონად ოიონ ალბატა დარ ჯანგ ბადი აქ ჩანსი გუნ სარკაზე ჯანგრო დი ისრაელ სამე გუფტა პრეზიდენტი ერონ გუფ აგენინ საბაბ ხარ ტიშტი ერონკი ბე ხორიჯა რაფტნი შევად ორო ტიშტი ხარბი ერონ ოზოთ მეკნად ალაკაი ჩანუს ბოზე ვაზირონი ხორიჯეი დიდარ მამლაკათო ბე ისრაელ ომდა ბო სრვაზირ ნეტანიაუ ავსობა შუდა ისოდაან საბაბ ბე ერონ იაგონ ხუჯუმ ნარასონად ისრაელ გუშტა ორხო სრვაზირ ისრაელ კარდა ისოდაან ზრუი მალუმოთ ეკი ბეირონ რსით اگر اسرائیل ضربه ها رسانده می شود اون می باشد در بحث بسیاری اعضای ایرانی که در سوریه جایگیر هستند. از این سبب قربانی سوریه عسکرهای خود را و همچنین یک چند بازهای حربی خود را از سوریه برآورده ایستاده است. حکومت پاکستان معلوم کرد که پرزیدنت ایران در نزدیکها سفر خود را در پاکستان گذراندنی هست. در عمان آتشکونی ها روی داد، در نتیجه ده جوان ها نهود شدند. آتشکونی تاثیر خود را همچون به ایرپورتی در دبی بوده رسان که این ایرپورت محکم کرده شد. به دیگه دادان معلوماتی او هوا همین شب در خیف 21، در تل اویف 20، در برشو 21، در پایتخت کمان روشتن این شب 19 درجه گرمی. بایان خدا خط پگاه ستی دوزونیم به شما با یک چند معلومات خواه نرسانیم. سلام یروشلایم.
Il est 21h. Vous êtes sur Cannes, la radio publique israélienne. Voici votre programme en français. Bonne écoute à tous nos auditeurs.
Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver au micro Yael Bornstein, en technique avec moi, Michael Olschwang. Vous êtes sur Cannes en français et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Aujourd'hui, 17 avril 2024, 194e jour de la guerre. Ce soir, nous parlerons avec notre confrère Olivier Rafovitch, colonel de réserve par ailleurs, qui nous résumera une semaine chargée en événements sécuritaires. Il évoquera l'attaque iranienne et la riposte que prévoit Israël, mais aussi les enjeux au front nord et sud du pays. Mais avant cela, commençons par le journal de ces dernières 24 heures.
Le Flash Info de Cannes, la radio publique israélienne, présentée par Ariel Bornstein.
Dans la localité arabe d'Arab el-Haram, près de la frontière libanaise, 18 personnes ont été blessées par un tir direct d'un drone piégé qui a heurté un centre communautaire du village. 14 d'entre eux sont des soldats de Tsahal. L'un d'entre eux est dans un état critique, deux dans un état grave et le reste dans un état modéré. La totalité des blessés a été prise en charge au centre médical de Galilée, à Naharia. Le Hezbollah a revendiqué la responsabilité de ses tirs à Arab el-Haramcha en Galilée occidentale, affirmant que l'attaque avait été menée à l'aide de missiles anti-chars et de drones d'attaque. Selon le Hezbollah, elle vient en riposte à l'élimination de certains de ses membres. Dans la documentation de l'attaque, on peut voir qu'un drone kamikaze explose sur un bâtiment où se trouvaient les soldats. Le président d'Israël Beitenu, Avigdor Lieberman, a vivement critiqué la conduite des combats dans le Nord, écrit sur le réseau X que c'est le 94e jour que le cabinet de conception a perdu et abandonné les habitants du Nord qui sont devenus des canards à la portée des tirs du Hezbollah. Nous devons immédiatement jeter le Hezbollah au-delà du fleuve du Litani, c'est ce qu'a ajouté Lieberman. Suite à des informations faisant état d'une attaque israélienne au plus profond du Liban, l'Agence nationale de presse libanaise a rapporté qu'un drone israélien a attaqué avec 3 missiles un bâtiment à l'intérieur d'un quartier résidentiel de la ville de Hiyat, adjacente à Baalbak, selon le journal libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah. Une personne a été blessée. Au même moment, la chaîne de télévision saoudienne Al-Ad faisait état de 2 civils blessés. Dans le cadre de l'accélération de la préparation de Tsahal à la défense et à l'attaque sur le front nord, un exercice de manœuvre de grande échelle a été réalisé en Galilée, dirigé par la 91e division en coopération avec l'armée de l'air, la police israélienne et les forces de sauvetage, dans un terrain complexe, sous des conditions météorologiques difficiles et de nombreux incidents faisant des victimes. Toutes les forces du secteur, y compris les policiers anti-émeutes et les membres des unités en attente dans les différentes localités, les forces de police, c'est celle de secours, les blindés, le génie et les brigades de la division s'efforceront de maintenir une pleine préparation pour une défense et une attaque forte au Liban. Par ailleurs, le lobby 1701, du nom de la résolution de l'ONU représentant des dizaines de milliers d'habitants du nord du pays, a publié une déclaration suite à l'attaque du Hezbollah plus tôt dans la journée, critiquant la conduite du gouvernement et celle du cabinet de guerre. 18 réservistes et civils paient un prix sanglant à cause de la politique passive du cabinet de guerre. Il est temps de dire la vérité au public. L'attaque iranienne n'a pas pris fin hier soir, mais elle dure depuis 6 mois à la frontière nord. Il est temps d'en finir. Tous les membres du cabinet devraient le retenir. Si les drones et les missiles anti-chars sont fabriqués en Iran, alors le Hezbollah, c'est l'Iran. Depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier, plus de 7200 blessés ont été pris en charge par les services de réhabilitation du ministère de la Défense. 95% d'entre eux sont des hommes réservistes de moins de 30 ans. Environ un tiers des blessés a développé des conditions mentales et psychiques en plus de leurs blessures corporelles. L'Iran a de nouveau mis en garde Israël contre toute riposte à l'attaque de samedi soir. Le président iranien Ebrahim Raisi a affirmé que la réponse iranienne serait cette fois décuplée. L'action que nous avons entreprise a été limitée. Nous avons décidé de n'attaquer que des cibles utilisées par le régime sioniste pour nuire aux intérêts iraniens. Si nous avions répondu à l'attaque israélienne contre notre consulat à Damas par une attaque de grande envergure, eh bien, il ne resterait plus rien du pays des sionistes. C'est ce dont s'est vanté Raïssi dans un discours qu'il a prononcé aujourd'hui lors d'un défilé militaire à Téhéran. Israël défend son droit de riposter à l'attaque iranienne. Le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, a transmis ce message lors de sa rencontre à Jérusalem avec ses homologues de Grande-Bretagne et d'Allemagne en visite éclair en Israël. Il a appelé à définir les gardiens de la révolution comme une organisation terroriste et a imposé des sanctions contre le programme de missiles iranien. L'attaque sauvetage contre l'État d'Israël a prouvé que l'Iran met en danger la stabilité de la région et a créé une opportunité pour la freiner. C'est ce qu'a déclaré le ministre Katz. En réponse, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a fait preuve de compréhension à l'égard de la position israélienne en déclarant qu'Israël était un État souverain dans ses décisions aussi. Avec cela, il a espéré qu'Israël agira avec sagesse et que sa réponse ne provoquera pas une escalade supplémentaire dans la région. Le Premier ministre du Qatar, Mohamed Al-Thani, a annoncé que le Qatar, je cite, « réexaminait sa position de médiateur entre Israël et Gaza ». Selon lui, la position de Doha est utilisée à mauvais escient par certains hommes politiques à leur propre fin. Il a ajouté que nous avons eu des contacts approfondis avec Téhéran et Washington pour contenir toute escalade. Toutes les parties dans la région nous disent qu'elles ne veulent pas de guerre. La meilleure façon de réduire l'escalade dans la région, eh bien, c'est d'arrêter la guerre à Gaza. Les négociations en vue d'un accord sur la libération des otages se trouvent à un point sensible pour le Premier ministre qatari. Elles échouent et nous faisons pourtant tout ce qui est en notre pouvoir pour surmonter cette situation afin de mettre un terme aux souffrances du peuple palestinien à Gaza et de libérer les otages. C'est ce qu'a déclaré Mohamed Ben Abdel Rahman. Shimon Midjan a porté ses propos à l'attention de Rachid Bet. Rachel Goldberg-Pauline, la mère de Hirsch, 23 ans, qui est otage depuis 194 jours à Gaza, a été choisie pour figurer sur la liste des 100 personnes les plus influentes du monde par le magazine américain Time. Dans l'espoir de revoir son fils, elle est devenue l'une des voix les plus importantes pour la libération des otages. Elle a rencontré des dizaines de dirigeants mondiaux, dont le président Joe Biden. Elle s'est adressée aux Nations Unies à New York et à Genève et elle a même obtenu une réunion avec le pape. Par ailleurs, le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, a partagé aujourd'hui des images dures et effrayantes de l'enlèvement de Yarden Bibas, toujours retenu captif par le Hamas à Gaza. Des images dans lesquelles on le voit conduit sur une moto entourée de terroristes. Herzog a écrit en anglais « Le monde ne peut plus rester silencieux face à de tels crimes. Ramenez-les à la maison immédiatement ». Les forces du Shin Bet et de Tsahal ont mené la semaine dernière une opération ciblée dans une zone civile à Bet Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, suite aux indications des services de renseignement faisant état de la présence de terroristes sur place. Les bataillons 890 et 97, les forces du génie militaire, les blindés, l'unité de Chaldag, la 504 et les forces du Shin Bet ont pris part à cette opération qui a attaqué un bâtiment central où se trouvent deux bâtiments utilisés comme écoles suite à des informations indiquant la présence du Hamas et de terroristes du djihad islamique en utilisant des civils qui séjournent là-bas comme des boucliers humains. Plusieurs terroristes ont été arrêtés et au cours de l'opération, ils ont tenté de fuir aux forces de sécurité. Tsahal et le Shin Bet ont mené par ailleurs une opération en Judée-Samarie dans laquelle ils ont arrêté plusieurs terroristes et beaucoup d'armes qui ont été confisquées. La porte-parole adjointe du département d'État américain, Danette Patel, a laissé entendre lors d'un point de presse que les États-Unis opposeraient leur veto à un vote au Conseil de sécurité visant à reconnaître un État palestinien. D'une manière générale, les États-Unis sont attachés à la solution de deux États et pensent que le seul moyen d'y parvenir est par le biais d'un dialogue continu entre les deux parties. Il a également évoqué les allégations de violation des droits de l'homme et des abus de travailleurs de l'UNRWA par les forces de Tsahal dans la bande de Gaza, disant que Washington était très préoccupé par ces rapports de l'ONU. Nous faisons pression sur Israël pour qu'il enquête de manière approfondie sur ces allégations et qu'il poursuive les responsables. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a rencontré au Qatar le président du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh. Les deux hommes ont discuté de l'acheminement de l'aide humanitaire à la bande de Gaza et des efforts visant à parvenir à un accord de cessez-le-feu et libération des otages affiliés au Hamas, a également rendu compte de la réunion. L'ambassadeur des Nations Unies aux Nations Unies, Gilad Erdan, a répondu au vote attendu au Conseil de sécurité sur la demande d'adhésion à part entière des Palestiniens à l'ONU, affirmant que le Conseil de sécurité, qui n'a pas encore condamné le massacre du 7 octobre et n'a pas consacré une seule discussion à tenter de discuter de la libération des otages ou encore à promouvoir des résolutions qui feraient pression sur le Hamas pour qu'il les libère. Le Conseil de sécurité, selon Erdan, investit son temps dans la promotion de l'établissement d'un État terroriste palestinien à un moment qui constitue une énorme récompense pour le terrorisme. Selon lui, tout pays qui voterait en faveur de cette demande prouverait qu'il n'a en tête que des considérations de politique étrangère et non des considérations de sécurité ou encore de morale. Après EasyJet, c'est au tour de la compagnie aérienne Air Canada qui devait reprendre demain ses vols vers Israël. Elle a décidé d'annuler pour l'heure tous ses vols vers et en provenance d'Israël. C'est ainsi que notre journaliste Sharon Idan l'a appris aujourd'hui pour Rechet Bet. Les passagers de la compagnie devraient recevoir des notifications dans les prochaines heures. Air Canada assurait un vol quotidien vers Israël et des milliers d'Israéliens sont concernés par cette décision. L'américain United n'est pas non plus revenu en Israël et El Al est donc la seule compagnie à desservir le continent américain, notamment l'Amérique du Nord. On termine avec la météo pour demain. Jeudi, il y aura une baisse des températures et une augmentation de l'humidité qui se fera sentir, mais il fera toujours plus chaud qu'à la norme saisonnière. Les vents s'intensifieront et il pourrait même y avoir du brouillard. Les maximales pour demain, Tel Aviv 31, Jérusalem 30, Haïfa 32, Tibériade et Beersheva 35, Tzfat 27, Ashdod 28 et Eilat 34 degrés. Il est 21h33 et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On vous retrouve demain à partir de 15h sur Canon Français pour le premier journal de la mi-journée. Au micro, c'était Yael Bornstein, en technique avec moi, Michael Holschwang. On vous laisse retrouver Olivier Rafovitch qui va nous parler de la riposte israélienne en Iran. Shalom depuis Jérusalem. Littérature, société, culture, spectacle, le magazine de Canon Français. Analyse sécuritaire, politique et militaire, présentée par Olivier Rafovitch. Bonsoir Olivier Rafovitch.
Bonsoir Yael.
Heureuse de vous retrouver pour votre résumé de la semaine au niveau sécuritaire, stratégique et militaire. Une semaine qui a été bien évidemment chargée encore plus que les autres semaines avec cette fameuse attaque iranienne. On va y revenir. Je voudrais tout d'abord avoir vos commentaires sur cet événement qui a eu lieu il y a à peu près 2 heures. Des missiles qui sont tirés depuis le sud Liban qui s'écrasent directement sur un centre communautaire du village arabe de Arav al-Aramcheh.
D'abord, c'est un événement très grave. Vous allez me dire pourquoi il est grave et plus grave que les autres, parce que d'abord il y a beaucoup de blessés, on parle de 18 blessés, dont un dans un état très grave, alors nous parlons, un ou deux d'ailleurs, on n'a pas encore...
Oui, on a une personne en état grave et 2 grièvement blessés aussi, mais là, le premier cas est entre la vie et la mort. Ouais.
Mais ce qui est clair, c'est que le Hezbollah de nouveau attaque des villes et des villages israéliens le long de la frontière. Là, un village arabe, Arav al-Aramcheh, près de Mahalot, dans ce qu'on appelle la région ouest de la frontière entre Israël et le Liban. Et beaucoup de blessés par certainement un drone suicide, certainement de fabrication iranienne, qui s'écrase sur ce maknas, ce centre communautaire, ce centre de loisirs, enfin, en général les centres qui existent dans tous les villages israéliens, où il y a des activités sportives, scolaires ou parascolaires. Et donc cette attaque a lieu de nouveau parmi les autres qui ont lieu tous les jours, et cela fait des victimes, des blessés graves. Et ceci montre que le Hezbollah continue à attaquer Israël et que si le Hezbollah n'arrête pas cette suite d'attaques qui empêche les Israéliens de revenir habiter chez eux, qui empêche Israël d'avoir une situation normale au nord, eh bien, s'il n'y a pas d'option diplomatique et politique qui marche, c'est-à-dire qui fait que le Hezbollah revient au nord de l'Italie du fleuve, selon la résolution des Nations Unies du Conseil de sécurité 1701, eh bien, il n'est pas impossible que l'option militaire soit envisageable. En tout cas, situation très sérieuse, très grave, qui montre que le nord d'Israël est toujours sous les attaques constantes du Hezbollah.
Elle se multiplie, j'ai le sentiment que autant les capacités, ou peut-être je me trompe, c'est une question que je vous pose, j'ai le sentiment en tout cas que les capacités stratégiques au niveau des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza sont beaucoup réduites, mais que au niveau du Hezbollah au sud de Liban, au contraire, les attaques s'intensifient.
Alors d'abord, vous parlez de l'attaque qui a lieu dimanche soir, durant l'attaque iranienne, où 100 missiles du Hezbollah ont touché Israël, le nord, également la région du Golan, puis d'autres missiles depuis dimanche soir. Mm-hmm. Le Hezbollah, effectivement, d'un côté, intensifie ses frappes contre Israël. Israël a également répondu par l'élimination ciblée de plusieurs chefs de Radouane, qui est la branche, on va dire, élite, entre guillemets, du Hezbollah contre Israël. Et tout ça fait qu'il y a effectivement une espèce de jointure entre ce que a fait l'Iran, est-ce que menace l'Iran de Téhéran contre Israël et l'activité terroriste du Hezbollah, qui quand même, il faut le dire, n'a pas tout fait ce que peut-être les Iraniens auraient aimé que le Hezbollah fasse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des tirs au-delà, des tirs gravement sérieux, mais qui n'ont pas dépassé que nous connaissons depuis le début du conflit avec eux, depuis le 8 octobre. Mais nous sommes dans une situation toujours extrêmement sensible et tendue et triste. Voilà.
Comment est-ce que vous expliquez d'ailleurs que l'attaque n'ait pas été plus significative? Est-ce que c'est une réussite de la défense aérienne israélienne et évidemment du partenariat avec les États-Unis et l'Angleterre, notamment, en tout cas au niveau militaire, je parle. Ou alors est-ce que vous pensez que l'Iran, comme ils essayent de le dire, c'est peut-être a fait ça exprès pour ne pas justement enclencher une escalade supplémentaire?
Vous parlez de l'Iran ou du Hezbollah?
Non, là, je parle de l'Iran, vous parlez de... Ah, pardon, excusez-moi, on parle de 2 attaques différentes, bien évidemment, ok. Donc le Hezbollah, oui, le Hezbollah.
Le Hezbollah est rentré dans la guerre contre Israël en voulant soutenir le Hamas, et donc il le fait au détriment de l'intérêt du Liban et des Libanais. Il le fait également en connexion, en coordination avec l'Iran. C'est l'Iran qui arme, qui finance et qui dirige le Hezbollah, avec évidemment Nasrallah qui est à la tête du Hezbollah, mais Nasrallah écoute également Téhéran et les chefs de l'Iran dans l'action anti-israélienne. Non, ce qu'on peut dire, c'est que le Hezbollah s'est effectivement joint à l'attaque iranienne contre Israël, puisqu'ils ont attaqué avec 100 missiles, mais disons qu'ils auraient pu faire plus, je crois, du Hezbollah. Oui. Alors, est-ce que le Hezbollah cache son jeu? Est-ce que le Hezbollah essaie de masquer quelque chose? Alors, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'attaque contre le village de Arab el-Aramché dans la zone ouest de la Galilée montre qu'il y a un danger gravissime du Hezbollah et que cette situation est intolérable et, insupportable.
Alors, est-ce que vous envisagez, je vous pose la question à peu près chaque semaine et je sais très bien que vous allez me répondre et vous aurez raison que vous n'êtes pas prophète, mais comment est-ce que vous envisagez la suite des événements? Comme vous le disiez en début d'émission, les Israéliens ne veulent pas rentrer chez eux tant que la menace n'est pas écartée. Est-ce qu'on va devoir en arriver à une incursion terrestre au Liban? Une attaque plus sévère de la part d'Israël ferait l'affaire selon vous?
Encore une fois, on ne peut pas parler de ce qui va se passer. On peut parler de ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que près de 100 000 Israéliens dans le nord d'Israël ne peuvent pas aller chez eux, vivre chez eux normalement, à cause des attaques et des menaces du Hezbollah. Ceci est impardonnable et par rapport au Hezbollah, on ne peut pas leur... Et surtout, est insupportable, pardon, si on fait le terme, insupportable. Et dans ce cadre-là, s'il n'y a pas de solution politico-diplomatique avec les Américains et les Français, entre autres, eh bien, l'option militaire reste une option envisageable, évidemment. Tout cela dépend de la position du gouvernement israélien. Mais il est clair qu'Israël ne peut pas, sur du long terme, continuer à avoir cette situation dramatique où Kiryat Shmona, Arab el-Aramché, Metula, les kibboutz de Hamita, Manara dans la région Est sont bombardés quotidiennement. Les poulaillers sont détruits, des milliers de poules sont mortes. Alors, vous allez me dire... C'est un épiphénomène? Non, parce que...
Ah non, c'est très grave.
Non, je dis que ce n'est pas du tout un épiphénomène, c'est très grave, parce qu'en fait, c'est l'économie également qui est atteinte. C'est tout ce qu'on appelle le tissu socio-économique, l'écosystème, si vous voulez, du nord d'Israël. Les gens ne peuvent pas aller se promener, il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas d'hôtellerie. Enfin, c'est une catastrophe.
Bien sûr.
Cette catastrophe-là, aujourd'hui, elle est le résultat du Hezbollah, qui continue à menacer Israël et à attaquer Israël avec des missiles et surtout son orgueil.
Son orgueil, oui, c'est revendique avec fierté, bien évidemment. Voilà. Et ça, de plus en plus, on constate ce phénomène et bien au contraire, ils veulent montrer aussi leur soutien quasiment inconditionnel envers Téhéran. Alors là, on est dans l'attente. J'avais vraiment une question qui me brûlait les lèvres cette semaine et je serais ravie de vous la poser. Quel a été l'intérêt de l'Iran d'envoyer donc une quantité aussi importante de drones et de missiles, en sachant que s'ils avaient utilisé les proxys qu'ils ont dans la région, ça aurait semé beaucoup plus la panique. Tandis que on a reçu tous, comme tout le pays a reçu, les missiles sont en route, ils sont déjà partis, ils ont encore à peu près un quart d'heure de vol. On en est donc. Personne n'a été réellement abasourdi de recevoir cette quantité de missiles. Est-ce que ça valait le coup de faire ça en sachant que le délai de vol, même s'il peut être rapide pour les missiles balistiques, est-ce que ça valait vraiment le coup d'envoyer ces missiles depuis le territoire iranien?
Je veux dire une chose que les gens peut-être ne comprennent pas ou ne voient pas. Supposons un instant qu'Israël n'a pas ce parapluie anti-missile ou anti-aérien que nous possédons. Ces 330 missiles qui arrivent, et drones et missiles de croisière qui arrivent sur Israël, vont faire des milliers de morts. Et les dégâts, même s'ils viennent de très loin, même s'il y a un temps de vol important, nous sommes dans une situation d'attaque avec la détermination, la volonté de faire des dégâts, de faire des morts Le fait que nous ayons ce parapluie anti-missile avec Dôme de Fer, avec la fronde de David, avec les missiles anti-missiles Arrow, et évidemment notre aviation extraordinaire avec les aviations de pays alliés qui nous ont aidés dans cette action d'interception au pluriel, fait que, comme vous savez, 99% des objets ennemis ont été détruits. Mais regardez ce qui se passe en Ukraine. Dans d'autres pays, lorsqu'il n'y a pas de protection aérienne de qualité, c'est des centaines de morts, voire des milliers de morts, destruction de villes. Et là, c'était absolument un autre scénario auquel on aurait pu rencontrer. Donc, ne soyons pas dans la sous-estimation de ce qui est passé.
Mais ils savent très bien qu'on a une défense aérienne.
Je veux dire, oui, mais les Iraniens, dans cette attaque-là, ont décidé de baisser les masques et de ne plus utiliser seulement leur proxy pour attaquer Israël, ce qu'ils font depuis des années et des années. Et ceci est un changement radical de paradigme. D'ailleurs, nous voyons depuis dimanche que les Iraniens continuent à menacer Israël avec des menaces très très graves, très très sérieuses. Et Israël, nous écoutons ces menaces, nous les prenons également sérieusement. Et le gouvernement israélien, avec l'armée israélienne, font les, ce qu'on appelle les estimations, les assessments, les prises en compte de tout ce qui se passe, pour ensuite, plus ou non, décider de la suite. Mais l'attaque iranienne est un changement de paradigme du conflit entre l'État d'Israël et l'Iran.
Et la riposte israélienne est aussi un changement de paradigme, selon vous ? La riposte que l'on attend, hein ?
Vous savez, depuis 2-3 jours, on me pose ces questions à moi et à d'autres, évidemment, sur la riposte, c'est classique. Ma réponse est très claire. Je ne veux en aucun cas aujourd'hui aborder ce sujet, ni avec vous, ni avec personne d'autre. C'est une décision qui appartient seulement, alors nous parlons, à la prérogative du gouvernement israélien, et Tzal et les forces de sécurité seront...
Bon, j'ai compris le message et je respecte tout à fait, je le dis pour ceux de nos auditeurs qui ne le sauraient pas, vous êtes vous-même colonel de réserve et il y a vraisemblablement des choses que vous n'êtes pas en mesure de nous dévoiler, c'est tout à votre honneur bien évidemment, donc j'arrête de poser cette question. J'ai le droit d'essayer, mais tenons les pouces en tout cas pour Tzal. Je voudrais qu'on termine cet entretien avec la situation à Gaza. L'attaque, l'incursion à Rafi, à Rupa et évidemment le sort de nos otages à cette avant-veille de Pessah.
Olivier. Alors nous parlons de la guerre contre le Hamas n'est pas terminée. Et vous entendez,
oui, bien sûr, bien sûr.
La guerre contre Hamas n'est pas terminée. Il y a encore des opérations actuellement dans la région des, ce qu'on appelle des Mahanot Amakaz, au centre de la bande de Gaza, avec la région de Nusayrat.
Oui.
Des opérations qui sont reliées à la division 162 qui opère dans le centre de la bande de Gaza. Et donc, cette guerre n'est pas terminée. Le Hamas n'est pas encore totalement détruit ni démantelé. Donc, nous continuons. Il y a encore la zone de Rafah, comme vous savez. Il se passe qu'en parallèle de cela, nous avons augmenté de manière sensible l'entrée de camions humanitaires et le dossier otage, du retour des otages, reste la priorité absolue d'Israël. Et vous savez qu'il y a eu des discussions, qu'il y a encore des discussions avec ce qu'on appelle des intermédiaires, avec l'Égypte, avec le Qatar, avec
les médiateurs. Ouais.
Tout à fait. On peut mettre la frotte en hébreu, tout à fait, les médiateurs. Et alors où nous parlons, je ne peux malheureusement pas donner de nouvelles.
Les Israéliens ont le sentiment, et peut-être ont-ils raison, que pas forcément tout est mis en œuvre comme il le faut. Parce que, voilà, à 194 jours du début de la guerre et de leur prise d'otages, on a le sentiment que s'ils avaient dû revenir, ils seraient déjà revenus maintenant.
Non, il ne faut pas dire ça, parce que la preuve, nous sommes face, nous n'oublions pas, à un groupe terroriste d'une cruauté absolue. Il joue avec la vie des otages, avec la vie des familles d'otages, puisqu'il met des pressions psychologiques horribles. Je vous rappelle ces films ou ces vidéos qui étaient sortis de temps en temps, avec des bribes d'images, des peu d'informations. Il y a ici un jeu cruel, diabolique, de la part du Hamas au sujet des otages. Donc, on peut évidemment demander à l'État d'Israël des choses. On peut faire abstraction de l'ennemi qui est en face de nous, qui est celui qui a pris les otages, ne l'oublions pas, qui a kidnappé des femmes, des enfants, des vieillards, qui a tué 1200 personnes de manière horrible, qui a violé, qui a brûlé. Donc, tout ça réuni, c'est que, évidemment, que la population israélienne se tourne vers son gouvernement et vers son armée, c'est normal, puisque nous sommes l'armée d'Israël et le gouvernement israélien. Mais en face de nous, il y a des gens qui ont kidnappé et qui utilisent la vie des otages pour mener une autre guerre, une guerre psychologique, une guerre dans la guerre, une guerre pour obtenir des choses. Et en prenant également en compte que le Hamas ment, que le Hamas est tout sauf fiable, donc il faut extrêmement attention. Lorsque le Hamas dit quelque chose, qu'est-ce qu'il dit, pourquoi il le dit, et est-ce qu'il est vraiment derrière ce qu'il dit dans tout ce réunif, c'est que effectivement, c'est un dossier très sensible, qui est géré, pas par hasard, par le Mossad, par le Shabak, et par le général Salanon, qui est un ancien également des services de sécurité, et qui est quelqu'un de brillantissime. Cette équipe, avec d'autres personnes, gère un dossier qui est d'une sensibilité absolue et d'une difficulté qui est en face de nous. C'est le Hamas, et le Hamas, c'est tout sauf des gens sympathiques. Mais bien sûr. Ils jouent avec la vie des otages, avec la vie des Israéliens, et on aurait tous aimé qu'à la veille de Pessah, tous les otages reviennent à la maison. Oui. Et alors, nous parlons, ce n'est pas encore le cas.
Ça va être très difficile hein, de célébrer cette fête de Pessah, cette fête de la liberté, en ayant toutes ces chaises vides. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'au moins pour les civils israéliens, en tout cas, cette période passe le plus paisiblement possible. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, pour cette analyse. Et on vous retrouve la semaine prochaine sur Canon en français.
Merci beaucoup. Et à notre émission, je voudrais souhaiter vraiment un Chag Pessah Sameach, un Chag Pessah Kasher de Sameach pour tous les bénis Israël, en Israël et en dehors d'Israël, et souhaiter également, comme nous tous, nous le souhaitons, le retour de tous les otages à la maison, tous,
et plus rapidement.
Viennent le plus vite possible à la maison, les familles les attendent, tout Israël les attend, et Israël continuera à tout faire pour que les otages à la maison soient.
Olivier Rafovitch, merci beaucoup.
Abraham ben Emuna,
Elad ben Chana, Ohad ben Esther, Ofer ben Kochava, Amiram ben Sara, Yoram ben Miriam, Sasha Alexander ben Yelena. Alexander ben Nina, Ayim ben Nechama. Shlomo ben Marcel, Nadav ben Chana, Hamza ben Naima, Yusuf Hamis ben Halima, Liyor ben Ogenia, Gali ben Talia, Ziv ben Talia. Samuel ben Gladys, Yagev ben Esther, Kaid Vachan, Alkadi, Nadav ben Chana, Avinatan ben Titza, Tirza, Noah bat Liora, Elkanah ben Ruchama, Amit Esther, Chaya bat Meir ben Uri, Hirsch ben Perel Chana, Romi bat Merav, Gai ben Merav. Okay.